de Brisbane à Cuba,
des cloches de vache au prix Goncourt,
toute l'actualité,
ou presque,
dans Carrément Méchant. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce second numéro de Carrément Méchant, enregistré aujourd'hui, mardi 18 novembre. Salut Émilie.
Salut Yann.
Alors, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez aujourd'hui, ce soir, ce matin, suivant quand, pour être resté jusqu'au second numéro. C'est un effort exceptionnel. C'est-à-dire que CNN va bientôt relayer ça, hein. Deux numéros déjà, très franchement. C'est du jamais vu dans l'histoire du commentaire de l'actualité et de la satire suisse. Car oui, rappelons-le, hein, nous venons de ce merveilleux pays, d'où, évidemment, notre ami Serge Dassault remporte des valises pleines de thunes, selon Libération et France Inter.
Absolument.
Voilà, absolument. On sent déjà la contribution d'Émilie à l'émission et qui est d'acquiescer à ce que je dis. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de...
Le rôle de la cruche.
Exactement. On va parler de l'Ukraine, on va parler du G20, on va parler de la FIFA, on va parler du patron de Google.
Et on va parler des koalas.
Oh, mon Dieu, des koalas. Ça va être doux, ça va être mignon. On va pouvoir les tenir dans nos bras, les koalas.
Non, toi pas.
Non.
Est-ce que tu es un chef d'État d'une nation membre du G20 ou pas?
Bon, d'accord. En tout cas, on vous encourage toujours à évidemment réagir à l'émission dans les commentaires. Et on attaque tout de suite donc par nos amis les États-Unis. Ça ne vous a pas échappé. Depuis la dernière fois où on s'est parlé, ont eu lieu les élections midterms. Donc les représentants de nos amis américains dans différents États ont été élus ou réélus suivant lesquels. Mais aussi, c'est le moment où les États-Unis décident de voter sur certains objets, plus particulièrement donc les États. Et ce qui est intéressant, c'est trois types de sujets qui ont été présents dans les urnes pendant ces midterms. Le premier, ça a été le salaire minimum. Alors, il faut savoir qu'en Arkansas et au Nebraska, eh bien, ils ont voté du nouveau salaire minimum. C'est chouette, hein, une grande avancée sociale.
Ça effraierait beaucoup de...
Ils ont augmenté...
De pauvres Suisses qui ont voté contre ça.
Ce qui, aux États-Unis, augmenter le salaire minimum, c'est quand même un geste fort. Alors, attention, on est passé de 6,25$ de l'heure à 8,50$, donc une fortune, évidemment, hein, surtout dans ces temps. Au Nebraska, on est passé de 7,25$ à 9$, très franchement, ils vivent au-dessus de leurs moyens, c'est complètement dingue, c'est osé, c'est vraiment osé. Du côté de l'Alaska, et du Dakota du Sud, ça a été proposé, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Du côté des ventes d'armes qui font pompon, tu sais, les flingues, les rifles.
Le genre de choses qu'on utilise dans les écoles récemment.
Oui, c'est un accessoire, enfin, franchement, avec les cahiers et les classeurs, c'est vachement à la mode.
Rentrée 2014.
Chaque fois qu'on va en septembre aux États-Unis, on voit les crayons, les cartables et les flingues.
Tu peux acheter tes gommes en forme de Kalachnikov.
Exact, mais oui, c'est sponsorisé par la NRA, enfin vraiment, ils font un lobbying exceptionnel de ce côté-là. Dans l'État de Washington, l'État dans l'État, pourrait-on dire, eh bien, ils ont augmenté le nombre de contrôles, ce qui s'appelle en anglais des background checks, donc de vérifier à qui on vend, à qui on prête les armes. Alors figurez-vous que désormais, c'était pas le cas avant, désormais il y aura plus de background checks du côté, eh bien, des transactions privées. Donc du coup, si on est tous les deux des résidents de Washington et que je te vends mon arme, désormais on devra se renseigner sur qui je suis et qui tu es avant que la transaction puisse avoir lieu. Donc je ne peux pas, si tu es terroriste, te vendre une arme, et c'est très décevant. Voilà, c'est évidemment très gênant, et beaucoup s'élèvent contre ce problème, contre la liberté.
Moi, ça me paraît moyennement discutable comme mesure.
C'est-à-dire, hein.
C'est-à-dire que, particulièrement dans l'État de Washington, oui, où il y a eu une fusillade il y a environ 2 semaines dans une école,
oui,
j'ai pas l'impression que la population va forcément se révolter contre des contrôles plus forts sur la vente d'armes.
La population, non, mais une majorité républicaine et des gens de la NRA.
Ils
et...
tout le temps, ces gens, ils sont pénibles.
Mais ils ont repris le contrôle justement du Sénat, donc justement, ils vont pouvoir bien bloquer ce genre de loi pour progresser.
Oui, mais du coup, comme elle vient de passer.
Oui. Dans l'État de Washington, voilà. Dans l'État de Washington, qui n'est pas forcément le plus redneck de tous les États, il faut bien le.
Bah, quand même, hein.
Utiliser. Ouais, mais bon, c'est pas.
On parle
plus
de l'État de Washington, pas de la capitale.
Ce n'est pas le Texas non plus, n'est-ce pas?
C'est le
Texas. Et ça reste des mesures qui sont quand même relativement raisonnables en même temps, donc c'est pas non plus extrêmement surprenant. Dieu merci. Du côté, eh bien, de la nourriture, sachez que les personnes qui ont voté au Colorado ont refusé un objet qui aurait forcé les producteurs de nourriture, et plus particulièrement les choses qui se vendent dans des emballages, à indiquer sur les 10 emballages que ça contient des OGM.
Tu crois qu'on peut trouver une nourriture quelconque qui n'est pas dans un emballage au Colorado?
Probablement des champs de maïs, mais ceux-là, ils doivent être transgénique aussi, donc ça n'arrive pas le problème.
Du côté, les maïs, ils poussent dans le plastique déjà.
Du côté des gens qui justement ont gagné, donc s'opposaient à ce projet de loi, eh bien, ce sont évidemment les gens qui vendent et qui manufacturent ce genre de produits, disant que, eh bien, ça aurait fait penser aux consommateurs que ces produits sont mauvais pour la santé, sont néfastes. Alors que non, il était juste question de dire que c'était des OGM, donc il y a le côté un petit peu, ils sautent déjà le pas pour eux. Apparemment, les OGM, c'est néfaste. Donc pourquoi ils le vendent ? C'est une question qu'on peut se poser. Très bien, ça donc, c'est pour les États-Unis, les midterms, ce qui a été voté assez récemment. Du côté de l'Ukraine, par contre, on n'a pas tellement voté.
On n'a pas... En fait, si.
Ah bon ?
Tu vois, on a voté deux fois. Il y a des élections dans l'Est
de l'Ukraine. Ça a pas eu beaucoup de résultats, je pense.
Il y a des élections dans l'Est de l'Ukraine, ouais, dans les zones qui sont tenues par les rebelles et qui s'appellent maintenant la Novorossiya. Quel que soit le nom, la traduction en français, mais également dans l'ouest de l'Ukraine, où il y a eu des élections parlementaires, où le président Poroshenko n'a pas obtenu la majorité et a donc dû doit faire quelques concessions avec quelqu'un d'autre. Mais c'était rigolo aussi dans ces élections, puisqu'il y avait notamment Dark Vador et Chewbacca qui se sont présentés aux élections parlementaires et ont envoyé des affiches dans les rues de Kiev avec des portraits de Dark Vador qui n'a malheureusement pas été élu.
Je rétablirai la force.
Eh bien, à propos de rétablir, ce qui est vraiment rigolo avec l'Ukraine ces temps, c'est que depuis le 5 septembre, comme vous le savez, il y a un conflit en Ukraine, dans l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Et il y a donc des rebelles, ce qu'on appelle les rebelles pro-russes, c'est-à-dire une entité humaine dont on ne sait pas trop qui elle est, ce qu'elle fait, quelle langue elle parle, et ils sont probablement à la fois russes et non russes, et à la fois ukrainiens et non ukrainiens, mais c'est égal. Bref, toujours est-il que dans cette dans les régions du Donbass, les parties prenantes au conflit ont accepté un cessez-le-feu qui a été négocié à Minsk le 5 septembre. Le 5 septembre, c'était il y a combien de temps, Yann ?
C'était fouillaya, il y a 2 mois.
C'était il y a 2 mois, c'était même très exactement il y a 75 jours.
Bravo.
Et donc c'est un cessez-le-feu. Comment tu écrirais cessez-le-feu ? Moi je me suis posé la question. Je savais pas. J'ai vraiment douté si on écrivait cessez avec R ou cessez avec Z. Parce que je pense que ça a une influence.
J'ai l'impression que c'est avec un Z, non ?
C'est effectivement avec un Z.
Yes.
Et du coup ça perd un peu de sa force puisque depuis le 5 septembre, le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine a été violé plus de 2400 fois.
Oui.
2400 fois, ça fait plus d'une fois par jour, ça fait plus d'une fois par heure en moyenne. Et encore, là, on ne parle que des infractions qui ont été recensées par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.
C'est peut-être une faute de typo, hein. C'est peut-être cesser le feu.
Non.
Non.
Enfin.
Ah merde.
Alors, c'est cesser le feu, s'il vous plaît.
C'est ça.
Enfin, allez, faites le vraiment nous, mais on rigole pas.
C'était pas EZ ou EUR, c'était cesser le feu pour une exclamation.
Exactement.
Merde.
Et il y a des types qui courent sur la frontière avec un mégaphone en disant arrêtez. Enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est assez affligeant. Et puis, et ce qui est rigolo surtout, c'est que tout le monde, enfin rigolo, tout le monde continue. D'appeler ça un cessez-le-feu.
Oui.
Alors les médias, les chefs d'État, le grand public, c'est ridicule. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un nombre d'infractions après que tu aies violé ton cessez-le-feu un certain nombre de fois ? Est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça, enfin, je sais pas, d'une autre manière ? Parce que le cessez-le-feu, il n'existe plus particulièrement. Donc non seulement il y a eu 2400 infractions, mais dans ces infractions, on compte des centaines de morts de militaires, des dizaines de morts civiles. Et pourtant, tous les médias et tous les chefs d'État sont là. Est-ce que vous pourriez respecter le cessez-le-feu, s'il vous plaît ? Nous étions d'accord sur un cessez-le-feu.
Enfin, ma chère Amélie, ce ne sont que quelques incidents, n'est-ce pas ? Voilà, c'est... Très franchement, ce n'est pas sous notre contrôle. Déjà, les armées, elles sont arrivées là complètement par hasard. Enfin, franchement...
Dommage collatéraux. Et d'ailleurs, c'est tout à fait un hasard qu'il y ait des mouvements de troupes et des mouvements de tanks et de chars
au bord de
la frontière russe. À tel point que l'Ukraine, dans un mouvement plus ou moins désespéré, commence à construire un mur le long de la frontière avec la Russie. Donc, c'est vraiment un mur de briques, tu sais.
Ça rappelle des vieux souvenirs, ça. Sur un mur, sur une partie disputée, avec deux côtés. Ouais. On a célébré ça récemment, tu sais.
Oui, d'ailleurs.
Mais la chute, hein, pas la construction. Hein, tu vois. Faut rappeler un peu l'histoire aux gens.
Personnellement, si j'étais face à un tank russe et que d'un autre côté j'avais des briques rouges avec mon petit saut de ciment, je douterais un tout petit peu de la capacité de mon mur à arrêter Monsieur Poutine.
Oui.
Enfin bref, toujours est-il que Monsieur Poutine s'en défend d'une manière tout à fait intéressante d'un point de vue, disons, presque linguistique. Si, on a tous fait un peu de sociologie, on a fait de la Sciences Po, Yann et moi, ensemble d'ailleurs.
C'est la... Si tu parles à moi, oui, si tu parles aux auditeurs,
ah, oui,
je suis pas
non,
sûr.
J'ai, hein. j'ai dit Yann et moi, donc voilà. nous avons fait
tous.
Ça. Et Poutine a adopté une stratégie non pas réaliste, malgré ce que vous pourrez lire dans les journaux, c'est un constructiviste. Donc il va vous dire, il va vous regarder dans les yeux, il va vous dire, il n'y a pas de guerre. Ces soldats, ils sont pas russes.
Et deux secondes après, il fait « Bon Dieu, déchire !» Non ?
Non, mais c'est ce qu'on appelle le construit-construisant. Tu sais, c'est... Je dis qu'il n'y a pas de guerre, donc il n'y a pas de guerre. Mmh. Et on va lui dire « Mais si, il y a une guerre. » Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien.
C'est
et du coup,
fois.
Il se trouve dans une zone grise diplomatique qui est absolument incroyable dans le sens où les autres puissances savent pas quoi en faire. Ils se disent mais tant qu'ils reconnaissent pas qu'il y a une guerre.
Il y a pas de guerre parce que la guerre elle est en deux fronts déclarés.
Voilà. Alors ce qu'il a fait, c'est notamment il a pris tous ses petits soldats et il leur a arraché le drapeau russe qu'il y avait sur leur uniforme. Il les a balancés en Ukraine.
C'est ça.
Et il a dit aux journalistes, prouvez-moi qu'ils sont russes.
Non, ils font, les mecs c'est les Anonymous là, sérieusement. Enfin.
Non mais voilà. Où est-ce que vous voyez un drapeau sur leur uniforme?
Vraiment enfin, surréaliste cette affaire.
Mais oui, non, c'est un génie. Il a réussi à délocaliser un conflit.
Après,
qui l'arrange grandement.
Sociologiquement, je sais pas si on appelle ça un constructiviste ou plutôt un faux cul, mais bon, après.
Se met à être vulgaire, évidemment.
Non, c'est pas de la vulgarité, c'est des termes de diplomatie. Alors, faux cul toujours, continuons, tiens, avec notre ami Nicolas Sarkozy, si tu me le permets. Puisqu'en France, un enregistrement réalisé par France 2, alors je crois, pour complément, l'émission Complément d'enquête, exactement. Nicolas Sarkozy retrouve un militant qui a été encravaté, enfin micro-cravaté par un mec de France 2.
Micro-cravate, oui, c'est-à-dire qu'on a placé un
micro-cravate, voilà, exactement. Merci. Donc il se voit pas trop, c'est ça la pression.
Pas sûr que ce soit un verbe consacré.
Un, on voit pas précisément le micro-cravate sur la personne, parce que ça se fond généralement dans le costume. Mm-hmm. Et deux, on sait pas s'il est allumé ou éteint. Mm-hmm. Il s'avère que le militant voulait évoquer l'affaire Big Malion, la fameuse affaire Big Malion dans laquelle est trompée l'UMP et la campagne de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles de 2012. Et Sarkozy dit à ce militant qui voulait lui poser une question lors de ce meeting en vue de devenir, pour se présenter à la présidence de l'UMP, Sarkozy, hein, pas le militant, Sarkozy lui dit « Si je suis élu président de l'UMP, vous avez déposé plainte dans l'affaire Big Malion ?» L'autre lui répond oui. Il lui dit « Eh ben, je vais vous dire un truc, vous serez nommé dans la commission financière. » Donc génial. Double idée géniale, c'est-à-dire que non seulement il dit « T'auras un poste si tu fermes ta gueule », et en plus il lui dit « Attends, génie, t'auras un poste si tu fermes ta gueule dans le truc qui nous intéresse, l'affaire Big Malion, c'est clairement la commission financière qui est censée s'en charger. Le groupe où on va mettre 4 ou 5 personnes, dont un représentant des militants, comme ça, c'est bon ?» Et précise ensuite, on peut pas dire que je vous connaisse, qu'on s'est arrangé pour que ce soit vous. Donc c'est un petit peu gênant. Et en gros, le militant, ce qu'il a fait, c'est que le militant, il fait partie de l'UMP, il voit son opportunité, il se dit bon, j'ai des chances justement d'avoir une place bien au chaud là où forcément quand t'es militant, pas nécessairement arrivé. Hein, c'est un coup de bol pour lui. Pour le coup, Sarkozy rajoute donc, je suis pour la liberté, mais comme ça, vous avez les éléments, vous pigez. Ce qui veut dire un petit peu, bon mon enfant, tu as un choix, soit tu fermes ta gueule et je t'offre un sucre, soit tu parles et dans ce cas-là tu fais face aux conséquences. C'est-à-dire par exemple ne jamais avoir accès à ce genre de petits privilèges. Ce qui finalement, c'est des méthodes assez intéressantes.
Moi j'aime beaucoup le niveau de vocabulaire avec le vous pigez.
Vous pigez. Oui, il essaie.
C'est toujours d'une élégance.
C'est génial parce que
tellement délicate.
À chaque fois que Sarkozy essaie d'utiliser un terme vraiment un peu évolué, là il avait utilisé un terme qui n'est pas directement dans ma transcription mais qui est dans l'extrait vidéo.
Liberté.
Non mais il utilise.
Commission financière.
Il utilise autre chose, il utilise un terme super intelligent pour parler justement du fait qu'il le connaisse. J'ai pas noté le terme dans ma transcription, mais il utilise vraiment ça pour faire classe, alors que ça sent que c'est un peu pipoté. Bref.
C'est un peu un échec depuis quelques années, la classe de Sarkozy, non ?
Oui, oh là là, mais bon. Ah bah Sarkozy, malheureusement, il a pas pu se rendre là-bas.
Oui, parce que ce n'est plus le président de la France, donc Sarkozy ne s'est pas rendu au G20 de Brisbane.
Pauvre lui.
Pardon ?
Pauvre lui !
Oui, pauvre lui, parce qu'il a loupé des choses exceptionnelles. Il s'est passé des choses drôles à ce G20, c'était incroyable.
Ouais.
Je suis très contente de pouvoir vous en parler.
Oui, parce que tu y étais.
J'étais pas, mais j'aurais tellement voulu y être, t'imagines même pas, et tu comprendras très bien pourquoi par après.
Vas-y.
Donc on va peut-être juste rappeler ce qu'est le G20, oui. C'est une espèce de grosse rencontre avec, comme son nom l'indique. En fait, c'est même pas 20 pays, c'est 19 pays et l'Union Européenne qui envoient. Non, sérieusement.
C'est un club échangiste avec 19 personnes, mais plus donc, ceux qui regardent derrière la vitre.
C'est un peu plus compliqué de faire un nom accrocheur avec 19 plus et un collectif de pays qui envoient chacun un représentant. Hein.
Enfin, imagine, G19 and friends. And pals.
Oui, alors peut-être que ça évoluera comme ça s'ils veulent un peu faire un marketing plus amical. Enfin, ouais. Bref, donc c'est une rencontre des pays industrialisés. Le G20, tous les membres du G20 ensemble constituent 85% du PIB mondial et ils se retrouvent deux fois par année dans des endroits
chicos,
dans des endroits plutôt sympas, plutôt chicos. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font dans les G20, qu'est-ce qu'on fait dans ces rencontres? Et on fait pas mal de choses. Déjà, le point de vue principal, ce que t'es censé faire là-bas, c'est discuter des gros problèmes économiques et fixer des objectifs sur comment les atteindre. Alors, c'est un programme déjà ambitieux.
Oui.
Imagine le nombre de gens que ça fait. Oui. Là, tous les chefs d'État, plus tous les représentants des banques centrales, ça fait déjà pas mal de monde. Donc, gros objectif. Ensuite, il faut quand même passer un peu du bon temps, il faut retrouver ses vieux potes. Aller faire un peu de tourisme aussi, c'est important. Il faut découvrir la culture locale quand même, puisque quand on est un chef d'État, on ne voyage pas beaucoup. Et puis il faut profiter absolument des moments où tu es à l'étranger. Je suis ironique. Oh. Je te vois.
Fais pas chier, sors de ta limo, enfin, voilà.
Non, juste là, alors ils sont sortis de leur limo, je te raconterai après. Et puis, il faut aussi arranger des petites rencontres privées quand il y a 2-3 petites tensions, peut-être par exemple entre monsieur Obama et monsieur Poutine. Je suis pas tout à fait d'accord. Ils s'aiment pas.
Merde.
Ils sont pas trop copains. Enfin bref, mais alors je vais te demander combien de temps tu penses que cette rencontre dure pour que tous ces gens puissent atteindre tous ces objectifs ambitieux.
Oh, une semaine.
2 jours.
Ok.
2. Samedi, dimanche.
Ah oui, c'est le petit week-end au chalet entre potes, quoi.
Oui, oui, alors tu arrives, tu descends champagne, ton avion, enfin c'est...
Ah, ouais. Et puis pour visiter, pour faire le reste, mais...
Ah non, mais ils ont le temps de faire tout ça, alors moi j'imagine même pas comment leurs journées sont remplies, et surtout j'imagine même pas à quel point ils sont efficaces dans leurs discussions. Mais donc ce G20 était absolument intéressant, à cause, évidemment, encore une fois, on va revenir à lui, de monsieur Poutine. Qui était présent là-bas, qui était présent là-bas avec monsieur Obama, avec monsieur Hollande, avec monsieur Tony Abbott, le premier ministre australien.
Oula.
Et monsieur Tony Abbott, justement, qui était pas très content. Il y a quelques mois, en octobre, Tony Abbott avait déclaré dans une interview que si il voyait monsieur Poutine, il allait le confronter physiquement. Il a utilisé l'expression « shirt front », qui est une expression consacrée dans le... australienne en termes de foot, qui en gros indique que tu dois
le plaquer au sol.
Foncer dans l'adversaire avec ta tête dans ses épaules. Et donc il a dit I'm going to shirt front Mr. Putin when I see him. Tu te souviens de la tragédie du vol de Malaysian Airlines qui s'est fait descendre en Ukraine?
Oui.
Et sur les 298 victimes, il y en avait 39 qui étaient australiennes. Donc évidemment, monsieur Abbott, il n'était pas tout à fait, disons, enclin à accueillir Poutine dans son pays et à lui servir un barbecue australien, ce qu'il a fait. Mais je vais quand même citer ce qu'il a dit exactement. Il a dit « I'm going to shirt front Mr. Putin. You bet you are, you bet I am. » Je sais pas ce que ça veut dire et je savais pas comment le traduire en français. C'est on dirait un ado dans une cour de récré.
Je te jure, je vais le faire.
Voilà,
qui
va aller frapper les
kids. Je vais le faire.
Voilà, c'est ça. Enfin... Bon.
Et donc,
toute l'Australie s'attendait à ce que monsieur Abbott fasse quand même quelque chose d'un peu rigolo.
Oui.
Alors déjà, quand ils se sont rencontrés au sommet de l'Asie-Pacifique la semaine passée, les gens étaient un peu tendus. Ils se demandaient, mais est-ce que monsieur Abbott va faire quelque chose?
Est-ce qu'il va tirer sa langue?
Et que s'est-il passé? Alors monsieur Abbott, au lieu de frapper monsieur Poutine, au lieu de l'attraper par les épaules, de le jeter dans un coin et de l'insulter, il lui a simplement jeté un koala dans les bras. Et pour être plus précis, il lui a délicatement déposé un koala dans les bras. Et il a également forcé tous les chefs d'État à poser avec des mignons petits koalas.
Bien.
Pour faire des photos absolument adorables où on voit monsieur Abbott et monsieur Poutine l'un à côté de l'autre, tout sourire,
mignon,
tout copain,
oh,
avec les koalas, avec leurs petites pattes griffues qui sont mignonnes quand même, il faut avouer. qui tapent, enfin qui griffent leur costard. Mmh. Et cette photo de Poutine est absolument, absolument merveilleuse.
On va vous la mettre sur la page de l'émission.
Absolument.
Vous pouvez pas manquer ça, c'est-à-dire qu'un tel moment de tendresse, ça va vous faire changer votre point de vue
absolument.
Sur l'avenir.
Alors moi, ça m'a fait réfléchir, par exemple.
Ouais. Hein, bon, rejoignez le Kremlin dès maintenant, hein, le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, manquez pas cette occasion exceptionnelle, je veux dire cet homme est aimable.
Ce qui est rigolo, c'est que les koalas qui ont été utilisés pour accueillir les chefs d'État, hein, ouais, sont des koalas spécialement entraînés, hein, par le gouvernement australien
à étrangler les victimes.
Non, mais pour littéralement câliner en fait les gens.
Oh, c'est des koalas diplomatiques.
Oui, c'est des koalas diplomatiques, et donc c'est des koalas qui ont déjà pris dans leurs bras le pape Jean-Paul II et notamment Taylor Swift.
Et ils savent danser le menuet très bien.
Bah, voilà. Écoute, Et donc pour continuer sur la partie loisirs dans ce G20.
Ah bah.
Par exemple, monsieur le premier ministre chinois, monsieur Xi Jinping. Mm-hmm. Bon, il était sûrement content d'avoir un koala dans les bras, mais c'était pas assez. Donc il a été aperçu pendant ces deux jours, très occupé, quand on a déjà dit, au volant d'une voiture de golf pour aller chercher des kangourous.
Oh!
Alors on imagine qu'au milieu d'une conversation, il se dit non, mais les gars, je suis désolé.
Mais à partir de
l'Australie,
à partir de quel moment c'est plus le G20 et ça commence à être Madagascar en fait? Je veux chercher à comprendre là.
Oui, ça. C'est pas à la fin, non, mais c'est absolument. C'est extrêmement drôle. Hein. Mm-hmm. Et monsieur Abbott avait sûrement essayé, disons, de détendre l'atmosphère qui était, disons, pas forcément. Sous les meilleurs augures lors de ce sommet, en organisant cette rencontre avec des koalas, mais c'est un peu un échec, puisque monsieur Poutine a décidé de quitter le sommet plus tôt, donc ce sommet qui dure déjà
deux jours.
On ne le répétera jamais assez. Ouais. Ouais, du coup, il aura loupé un dîner officiel et une conférence de presse qu'il a faite tout seul, pendant que les autres chefs d'État étaient en train de manger.
Pour qu'ils mangent.
En disant qu'il voulait partir plus tôt, puisque il manquait de sommeil et qu'il aimerait bien avoir 4 heures de sommeil avant de retourner au boulot lundi.
Mais c'est encore plus vicelard qu'à Yalta, sérieusement. C'est...
Non, mais il est incroyable. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que tous les médias occidentaux ont dit « Ah, mais monsieur Poutine est parti plus tôt, ça veut dire qu'il s'est senti mal à l'aise, ça veut dire que... »
Non, il a un mot de ses parents.
Que toutes nos remarques et que toutes nos... Voilà, tout ce qu'on a essayé de faire pour qu'il se sente mal à l'aise, ça a porté ses fruits, il va rentrer, il va mettre un terme à la guerre en Ukraine. Moi, je pense que Poutine, il leur a juste dit « Hey les gars, j'en ai rien à foutre. »
C'est ça.
« Je rentre à la maison. »
Ah, mais... Alors après... « Je rentre à la maison, exactement. »
Non, mais... Il a vraiment cité les chiffres, il a dit « Écoutez, vous savez, ça met 9 heures pour aller jusqu'à Vladivostok et encore 9 heures pour aller jusqu'à Moscou, alors il faut quand même que je dorme un petit peu avant d'aller travailler lundi, quoi. Retour au boulot, hein, fini les vacances, fini les koalas. » Alors il faut quand même avouer que bon, peut-être qu'il s'est senti un peu vexé, puisque il y a eu encore un dernier élément drôle de ce week-end.
Ouais.
Quand les chefs d'État se serrent la main les uns aux autres, le premier ministre du Canada, monsieur Stephen Harper,
oh là,
qui est un personnage absolument insipide, vous savez probablement pas à quoi il ressemble, moi, enfin je ne le savais pas non plus avant l'année passée, et il a fait un truc vraiment, mais... couillu, je sais pas comment le dire d'autre.
Courageux.
Je sais pas. Alors, quand monsieur Poutine est arrivé vers lui pour lui serrer la main, il l'a regardé, il lui a dit j'imagine que je vais vous serrer la main, mais il y a une seule chose que je devrais vous dire, il faut que vous sortiez d'Ukraine.
Oh, oh. C'est exactement ça.
Alors, vraiment, hein, imagine.
Les journalistes en snap. Ouais, c'est ça.
Et apparemment, monsieur Poutine n'a pas perdu sa superbe, il a simplement répondu malheureusement, c'est impossible puisque nous n'y sommes pas. On parlait de constructivisme. Mmh. Il est tout à fait pertinent dans sa lignée.
Et évidemment, ensuite, ils ont mis des un peu de bling-bling de rappeur et ils ont fait 3 minutes de blague au mama pour terminer le truc. Évidemment, c'est comme ça généralement que
absolument.
Finit une bonne...
Donc, il s'est vraiment passé des choses chouettes à ce G20. Et si vous voulez aller voir des photos, il y a des photos absolument merveilleuses qui circulent sur Internet.
En gros, tu conseilles à nos auditeurs d'aller voir sur Internet.
Vous pouvez taper Koala Poutine Obama et...
Oui. Voilà. Bon, très bien.
Désolée, je me suis laissé emporter. Ils sont vraiment mignons.
Ils sont bons, ils sont beaux. De quoi on parle ? On va parler de la FIFA. Ah bah, du football. Un monde très honnête. Hein.
Comment faire une transition intéressante entre FIFA et Koala ? Vous pourrez nous aider dans les commentaires, merci.
Larimant A. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du monde de la FIFA ? Eh bien, le 13 novembre, nous rappelle le New York Times, c'est Hans-Joachim Eckert, un juge de la FIFA, qui tourne notamment autour des questions d'éthique, qui a déclaré eh bien, que selon un rapport de Michael J. Garcia, la FIFA n'a rien à se reprocher dans, l'attribution pour les Coupes du Monde 2008 et 2022, respectivement à des pays évidemment extrêmement démocratiques, qui n'ont pas d'habitude de faire de la corruption, que sont la Russie et le Qatar.
Non, mais c'est pas mal, hein. Ça sonne un petit peu comme, Luxembourg et Allemagne.
C'est tout va bien. Donc, ce qu'a fait Monsieur Eckert, c'est qu'il a pris 500 pages de rapport de Monsieur Garcia, il a réduit ça à une 10-15aine de pages, il a dit en gros, vous en faites pas, tout va bien, il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de pot de vin, nickel. Sauf que la personne justement qui a mené l'enquête, Monsieur Garcia, qui était notamment un homme de loi du côté des États-Unis, a déclaré que Monsieur Eckert racontait n'importe quoi et qu'en fait son rapport disait beaucoup plus et ne faisait pas qu'absoudre la FIFA. Ce qui a réussi à passer dans le résumé du rapport, c'était une conduite potentiellement problématique, c'est très très vague.
Je pense que c'est exactement ce qu'on lui a demandé, c'est genre dire qu'est-ce que c'était cette conduite potentiellement problématique.
C'est ça.
Dernier paragraphe dans la conclusion.
Précisément, ce que dit Garcia par rapport au résumé qu'a fait Eckert, c'est que le rapport qu'a rendu Eckert était rempli de trous et contient plein d'erreurs de représentation de ce qu'il a dit par rapport aux faits et aux conclusions qu'il a relevées dans son enquête.
Rempli de trous, c'est quand même une figure de style intéressante, je tenais à le soulever.
Notamment le fait qu'au moins 6 des 22 membres ont eu des gros problèmes, ont été attaqués pour violation de caractère éthique. Donc si personnes sur les 22 qui ont voté pour l'attribution des Coupes du Monde 2008 et 2022. Donc déjà là, on commence à se dire...
Ouais, c'est moins de la moitié, qu'est-ce que tu nous embêtes.
Il y a un léger problème quand même, il y a un léger problème. Ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, quand il est question du vote qui a attribué pour la Russie en 2018, la Coupe du Monde pour la Russie en 2018, que donc, ce processus-là, il s'est passé de manière un peu bizarre, notamment les ordinateurs qu'il avait utilisés à l'époque, la plupart, ont été détruits entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où le vote a eu lieu et le moment où le rapport s'est fait. Donc le rapport dit simplement on sait pas tellement si ça y a eu tricherie parce que les machines ont disparu.
Malheureusement le camion qui les portait est passé à côté d'une falaise et il y avait beaucoup de vent et tout à coup c'est fini, donc on ne peut rien. Et à part ça, c'est original.
Ce qui est assez absurde, c'est donc que Garcia veut attaquer la FIFA parce que la FIFA dit en gros, Eckert qui utilise la voix de la FIFA dit la FIFA est innocente, la FIFA n'a rien fait, tout va bien avec la FIFA.
Donc si je peux résumer, la FIFA dit que la FIFA
est innocente. Et la seule instance à laquelle Garcia, donc la personne qui a fait le rapport principal, qui a ensuite été un peu manipulée par Eckert, peut faire appel, c'est la FIFA elle-même. Ah. Donc en fait, Garcia...
Il va faire appel auprès de la FIFA pour qu'il détermine si la FIFA...
n'a pas absous de manière malhonnête la FIFA. Exactement. Okay. Donc tout reste entre amis, on ne prononce pas le mot mafia, mais on y pense beaucoup.
Mafia, FIFA, c'est tout.
Oui, pourquoi pas. Deux jours après, c'est The Guardian... Journal anglais de référence, faut-il le rappeler, évidemment. On passe d'un journal américain à un journal anglais de référence, dans lequel le président de la Ligue de football allemande, le docteur, attention, ça déconne pas, Reinhard Raubal, je crois qu'il a aussi été ministre, enfin le mec.
Raubal,
ouais, effectivement, mais c'est bien Raubal quand tu parles. Raubal.
Non, mais enfin, du coup, c'est rigolo parce qu'il y a balle dedans.
Et oui, oui, juste, mais c'est exactement la réaction que je l'ai fait. Humour, satire,
blague.
Yes! Donc, la situation assez, assez amusante, c'est que Robal dit en gros, il se passe un truc bizarre avec cette histoire-là, moi je fais partie de la Ligue football allemande, j'aimerais bien que l'UEFA, qui est la Ligue européenne, si jamais la FIFA ne tire pas cette affaire au clair-là, simplement que l'UEFA, donc l'Europe, quitte la FIFA. Ce qui serait quand même quelque chose d'assez...
Que l'UEFA quitte la FIFA.
Exactement. Ce qui est quand même assez énorme comme disposition. Il y a beaucoup de matchs, évidemment, de l'UEFA qui profitent
de la FIFA.
Mais du
coup, ça ferait deux fois plus de championnats, ça serait cool.
Ça ferait pas.
Peut-être que je dis n'importe quoi, j'en sais
plus.
Rien.
Non, ce serait les mêmes, mais simplement ils seraient plus organisés par les mêmes personnes, ils n'auraient pas forcément la même résonance. Ce que dit, j'adore ce que dit Robol par rapport à ça. Il dit notamment, qu'il faudrait que l'UEFA quitte la FIFA si jamais la FIFA ne tire pas les choses au clair. Notamment, il dit en anglais, je vais vous faire la citation en anglais parce qu'elle est vraiment délicieuse. You have to entertain the question of whether you are still in good hands with FIFA. En gros, il faut se poser la question de peut-être si on serait pas en de bonne main avec la FIFA. Mon gars, ça fait des décennies que c'est un peu le problème. Donc c'est intéressant de se relever par rapport à ça maintenant.
Langage diplomatique, bonjour.
Oui, voilà, c'est ça. Cerise sur le gâteau, le président de la FIFA actuel, Sepp Blatter, notre ami suisse, qui a désormais 78 ans, donc qui fait très oncle mafieux, on rappelle, un parrain...
Si vous n'avez pas regardé le numéro de Last Week Tonight sur la FIFA, il faut absolument que vous le fassiez.
Oui.
Mais on va quand même vous dire que Sepp Blatter est également président d'un comité pour la défense des porte-jartels.
Vraiment ?
Mais t'as regardé
Oui, j'ai regardé, mais je me souviens plus, ça fait un moment. J'ai pas une si bonne mémoire que toi.
Affirmatif.
Mais alors,
c'est pas un comité très actif au niveau international, on est d'accord, mais ça existe.
D'accord. Mais tu sais, beaucoup de banquiers, beaucoup de hauts patrons, parfois, ont des fétiches qui sont les leurs.
Oui, des fétiches.
On avait retrouvé des banquiers dans des situations.
Un comité international, moi, je trouve ça.
De la jarretière. Très bien. Non, mais écoute, moi, je veux ma carte. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, ce qui est intéressant avec notre ami Seb Blatter, c'est que, eh bien, pour l'instant, personne ne veut concourir contre lui et que ce genre de rapport-là, le rapport donc de Eckert qui reprenait l'enquête de notre autre ami
Garcia,
exactement, c'est une mémoire des mecs extraordinaire, eh bien, c'est parfait, eh bien, du coup, il dit que non seulement la FIFA se comporte d'une manière extraordinaire, mais Sepp Blatter est un excellent patron et qu'il a conduit les choses dans une transparence totale. Donc, encore une fois, ce rapport vraiment brille par son. Ce résumé de rapport brille
son
par son indépendance,
voilà,
et son objectivité. Exactement, donc ça c'était pour la FIFA. Rapidement.
À propos de ouais, date, disons,
oui.
Et à propos.
De date, bien.
Non, mais je parle pas du fruit. Hein.
Bah, t'aurais pu.
Non, mais je voulais dire de date parce qu'en parlant d'anachronisme.
Anachronisme.
Non, mais anachronisme, c'est bien. Oui. Parce que. Enfin.
Oui.
Gâche pas ma transition, Yann,
oui.
S'il te plaît.
Oui.
Bref, donc j'ai bien envie de continuer à vous parler d'Isis. Je vous en avais déjà beaucoup parlé la semaine passée et. Et je sais que vous avez pas aimé ça et que c'était long et du coup je vais continuer parce que ça me fait plaisir hein.
De faire souffrir.
Et donc alors l'État islamique ou ISIS, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça m'est égal. Ils ont annoncé cette semaine que ils voulaient frapper leur propre monnaie.
Mm-hmm.
Par la suite ils ont rajouté qu'ils voulaient également lui mettre une combinaison orange et la décapiter avec un couteau de cuisine. Mais c'est une autre histoire. Donc plus sérieusement. Plus sérieusement, sur Twitter, donc l'État islamique qui porte le doux nom de @ISISNews001, qui est un profil qui a, de façon mystérieuse, été supprimé depuis.
Mais ils attendaient pas justement si c'était 001, ils s'attendaient à se faire banner, ils vont faire 002
oui, là,
dans deux semaines.
Enfin, ça viendra, donc vous pouvez sûrement aller chercher 005 déjà, parce que ça va assez vite ce genre de choses. Donc ils veulent frapper de la monnaie des pièces en or, des pièces en argent, des pièces en cuivre. Et ils ont notamment rajouté... Abat les monnaies papier sans valeur et nous voulons libérer les musulmans de l'oppression économique satanique.
Oui.
Ce qui est un but relativement noble. Et moi, ça me fait de nouveau penser à Poutine. Peut-être que je suis un peu obsédée avec lui.
Oui.
Mais c'est exactement la même dynamique. C'est-à-dire que Poutine disait ah, mais non, mais je vous dis qu'il n'y a pas de guerre, donc il n'y a pas de guerre. Et eux, ils vous disent on vous dit qu'on est un État, donc on est un État. Et en plus, oh, regardez, on a une monnaie, on est mignon. Enfin bon, on verra ce que ça donne, on verra aussi quel symbole ils vont choisir de mettre sur les pièces. Pour l'instant, il y a la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, mais bon, c'est un peu, enfin, c'est un peu cliché, c'est du déjà vu ça. Ils pourraient mettre, je sais pas, des têtes coupées, alors ça fera un peu.
Non, mais une tête de pirate simplement, enfin, tu sais,
l'emblème
pirate.
Quelque chose d'un peu cool.
Ah, l'emblème pirate, moi je
cheval avec un sabre, une barbe, quelque chose. Enfin, bref, si jamais on vous invite.
Le Père Noël,
si vous voulez soumettre vos contributions, eh bien on les transmettra à l'État islamique et peut-être qu'ils adopteront votre design. Et dernière chose, le magazine suisse Bilan, qui est un magazine suisse qui traite de questions d'économie, ont traité cette nouvelle de façon tout à fait factuelle. Ils ont voilà, ils veulent faire leur propre monnaie. Ils se demandent à la fin très sérieusement si l'État islamique a déjà pensé à mettre en place des moyens électroniques de paiement. Alors je pense qu'ils n'ont pas compris que ce que l'État islamique essayait de faire, c'était de recréer un califat, disons, plus ou moins médiéval. Et que je ne crois pas qu'il y avait déjà des bitcoins. Enfin, peut-être qu'on verra apparaître les jihadi coins dans quelques années.
Il y a eu les dogecoins, donc moi je veux bien.
Oui, enfin, on verra. Qui saura, mais il ne me semble pas que pour l'instant, ils ont vraiment... un intérêt technologique suffisant pour mettre en place une nouvelle monnaie électronique.
Mais c'est bien cette histoire de vouloir leur confier un peu d'argent, franchement, si tu veux aider l'humanitaire, tu peux donner à Terre des Hommes, puis si tu veux donner à Daesh, tu peux battre des femmes. Donc, Terre des Hommes, battre des femmes, tout ça, humour.
Humour, trop d'humour.
Second degré, mon Dieu. Et tant qu'à faire du second degré, des raccourcis faciles, allons-y. Un sondage dans Libération, publié par Libération, organisé par Fondapol, avec l'IFOP. C'est le sondage qui s'appelle Fondapol et c'est fait par l'IFOP, excusez-moi.
Fondapol.
Ouh là là, le journalisme, la précision.
Donc, France et les acronymes.
L'avance. Donc, avance. La question du sondage, c'est chez les proches du Front National, des gens adorables, pour chacune des catégories suivantes, trouvez-vous qu'elles sont trop nombreuses en France? Les musulmans, 99%, au moins
99.
C'est clair. Les Maghrébins, comptez qu'ils sachent faire la différence. 96%
de 96.
Les étrangers en général, c'est bien, voilà. Donc il y a, voilà, 83%. Les Noirs d'Afrique, 83%. Donc, les autres noirs, on ne saura pas. Hein. Les Asiatiques, 38%. Les Juifs, 38%. Jean-Marie Le Pen peut être fier, reste un fond d'antisémitisme, ouais, le Front National. Accroche-toi, papy. Et ça, ça m'a mis sur le cul. Dernière catégorie, avec 7% quand même. Hein. Pas apprécié par les trop de monde, trop de... Trop
En plus, on ne sait pas du tout qui c'est. Je veux dire, c'est qui un proche du Front National.
Nébuleux.
Détail.
7%. Les protestants. Alors à Genève, évidemment, nous, on n'est pas contre, qui gueule comme ça, parce qu'on n'a pas peur, hein, le Front National, il n'est pas en Suisse. Mais enfin, quand même, les protestants,
mais c'est-à-dire que... Ils ont quand même pas mal foutu la merde au Moyen-Âge.
Entre chrétiens, on n'est pas censé serrer les coudes, je veux dire, très franchement. Si on est à la fois contre les musulmans, les maghrébins, les étrangers en général, les noirs d'Afrique, les asiatiques et les juifs, pourquoi tu te passes des protestants? Toi, Kato, t'écris sérieusement.
Non, tu resteras toi, ta mère et ton grand-père.
Stratégiquement, d'accord, il y a les indulgences, il y avait Calvin, ok, il était un peu rigoriste, tu pouvais pas
forcément niquer
que tu
voulais.
Mais, enfin, voilà.
On n'oublie pas ce genre de choses.
Moi, je trouve ça stratégiquement vraiment dommage. Hein, s'ils veulent gagner les élections, il ne faut pas se passer des protestants.
C'est vrai.
C'est regrettable. Moi, je trouve que c'est regrettable pour le Front National.
J'avoue, je compatis avec toi, Yann.
On passe de l'international à la Suisse.
En Suisse, nous sommes un pays merveilleux, nous sommes un pays fort, international, et nos actions ont un impact qui se fait ressentir sur toute la planète. Donc, la Suisse, comme acteur central de la lutte contre le terrorisme, a décidé il y a quelques semaines d'interdire donc les organisations terroristes.
Oui.
Ce qui, je crois que vous en avez déjà parlé
la dernière
semaine
fois.
Passée, on l'avait mentionné comme ça, donc ouais. On les a interdits, on leur a dit non, on leur a dit vous avez pas le droit d'être là, et,
ouais.
Et voilà, vous êtes comme l'alcool pour les mineurs, enfin bref.
Mais on va y réfléchir.
Mais en fait, le problème en Suisse, c'est qu'on ne peut pas seulement dire des choses comme ça, il faut également faire des lois, il faut que les lois elles soient votées, et puis il faut que les lois elles soient revotées. Donc
oui.
Actuellement, on a une ordonnance qui interdit Al-Qaïda, qui dure jusqu'en décembre. Et donc en décembre, le Parlement va revoter sur cette ordonnance pour la renouveler pour les 4 prochaines années, pour que nous interdisions à nouveau Al-Qaïda pendant au moins 4 ans.
Donc en fait, on a un moratoire sur Al-Qaïda.
Absolument, et chaque année, on se repose la question, non, mais vous savez, ils ont fait des efforts, ils ont changé, je veux dire, maintenant ils sont en Asie du Sud-Est, enfin peut-être.
Leur bilan est bon.
Il faut leur donner une chance. Et puis.
Va voir avec l'outil de la compta, enfin.
Où c'était toi il y a 4 ans finalement.
C'est
les gens ils changent, Yann.
Eux voilà, ils ont fait des efforts, ils décapitent moins. Ils font plus de vidéos, il y a plus de moyens derrière.
Elles sont moins bien.
Il y a plus de moyens.
On parle d'Al-Qaïda là. Non, non, leurs vidéos elles sont chiantes à
mourir. Ils attendent justement qu'ils steppent un peu plus leur game, qu'ils fassent quelque chose d'un peu plus sérieux.
Bref, donc la Suisse a interdit les groupes terroristes pendant au moins 4 ans.
Bien.
Mais bon, on fait aussi d'autres choses. Il y a notamment, moi je peux pas m'empêcher de le mentionner. La Suisse a également créé une task force.
Oui.
Je sais pas ce que c'est.
C'est une force d'intervention.
Voilà, mais c'est pas une force d'intervention. Donc sur tous les documents officiels, on appelle ça une task force. Je pense que le traducteur en avait marre. Il a traduit toutes les choses en 4 langues, puisque nous avons 4 langues nationales en Suisse, au cas où vous l'auriez oublié. Et il s'est dit non, mais alors ce mot task force, il revient tout le temps. Je vais pas le traduire tout le temps. Je sais pas, on va mettre task force, on va se mettre à parler anglais. Moi, je trouve ça un peu ridicule.
Oui.
Mais moi, je sais pas. Peut-être que c'est pour que les terroristes comprennent mieux que la Suisse s'est attaquée au problème de façon très sérieuse. Et ils vont se dire, oh mon Dieu, la Suisse a créé une task force. Et donc, le nom de la task force, c'est Voyageurs du Djihad.
On dirait un album de Tintin.
Oui, moi, je pensais plutôt au titre du dernier Star Wars.
Et épisode 8, les voyageurs du djihad, dans une galaxie très très lointaine.
Non mais ça fait bien, ça sonne bien. Hein? Et donc le but de cette task force, c'est de gérer tout ce qui est les individus qui décident de quitter la Suisse pour aller se battre en Syrie. Et finalement c'est pas mal, puisque cette task force a été créée des restes d'un groupe de travail, puisque un groupe de travail c'est pas sexy du tout finalement.
Non.
Sur le tourisme djihadiste.
Donc, on est passé du tourisme au voyage.
On est passé du tourisme au voyage, donc finalement peut-être que...
Et comme le dit la chanson, et si vous partez en voyage. Ouais. Voilà.
Enfin bref, la Suisse...
La Suisse
est un pays merveilleux.
Un pays de tourisme, rappelons-le. Très bien, bah justement, tourisme et symboles nationaux, dernier point de cette émission. Une étude de l'EPFZ, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, met en cause les cloches des vaches, puisque selon cette étude donc, de l'EPFZ, les cloches des vaches font du mal aux animaux qui la portent. Elles sont lourdes, elles leur niquent le cou, pour faire simple.
Bah, je pense que je suis assez d'accord.
Voilà.
Enfin, imagine, tu portes cet énorme machin tout le temps. Enfin, c'est affreux.
Alors, quelqu'un qui peut-être, je sais pas, aimerait le porter, c'est la personne Jacques Bourgeois, qui est directeur de l'Union Suisse des Paysans et qui est aussi député fribourgeois du PLR, du Parti Libéral Radical, donc la droite traditionnelle. Enfin, traditionnelle, la droite centre-droit, pour faire ça.
Centre-droit.
Voilà. Quand je dis traditionnel, c'est.
C'est vieux, il se veut plutôt moderne.
C'est en contrebalancement de la droite, comment dire, extrême, traditionnelle, oui, extrême, ouais. Voilà. Dans ce sens-là, je voulais le dire, mais évidemment. Mais toutefois, il tient quand même une position assez conservatrice parce qu'il dit « Nous ne pouvons pas accepter que ces deniers publics, donc qui parlent des fonds universitaires, soient ainsi vilipendés. » Attention, il utilise un mot intelligent.
Vilipendés.
Oui.
Le bonhomme
accuse les chercheurs de ne rien connaître de la réalité du terrain et de remettre en question nos traditions, nos us et nos coutumes.
Et on suppose que Monsieur Jacques Bourgeois s'est entraîné régulièrement à porter une lourde cloche de vache autour du cou pour pouvoir se mettre à la place des pauvres animaux.
Alors, cette information-là, donc, elle a été relayée par RTS Info et la branche web du service public suisse francophone. Il ajoute d'ailleurs dans un complément d'information RTS Info que le Conseil fédéral, donc l'exécutif, n'entend pas s'exprimer sur la légitimité de cette étude ni imposer une marche à suivre aux écoles polytechniques. Donc, en gros, il n'y aura pas d'interdiction d'étudier les cloches des vaches, qui finalement est une bonne chose.
Je préfère qu'on interdise l'État islamique et qu'on n'interdise pas ce genre de choses.
Première précision intelligente.
Un peu de bon sens.
Précision intelligente. On nous dit donc qu'il attache le gouvernement en effet la plus grande importance à la liberté de l'enseignement. J'espère bien. Il précise aussi, le gouvernement fait néanmoins remarquer qu'une des missions de la recherche est d'étayer le discours sociétal et que la question sur les cloches des vaches fait débat depuis longtemps.
Ah oui, c'est un débat absolument central dans toute la politique suisse. Moi, si vous venez juste visiter la Suisse,
regardez les affiches.
Non, mais vous ne pouvez pas y échapper.
Exactement. Passant mon collier, il y a plein d'associations comme ça.
D'ailleurs, on en parle souvent, toi et moi.
Dans cette émission, on en parlera plein de fois.
Même de façon privée, ouais,
oui.
Ta famille, c'est vraiment
bien sûr. Bien. Ah, mais toutes mes vaches, d'ailleurs, sont au courant, moi je leur en parle. J'aimerais savoir. Personnellement, on a plutôt opté pour une ceinture, en fait, de mon côté, parce qu'en gros, c'est moins lourd à porter. Il y a juste une petite cloche.
Évidemment, nous pesons tous des vaches.
Exactement. Et RTS Info termine sur cette remarque que j'ai trouvée vraiment délicieuse. La recherche a aussi permis à la Suisse d'être l'un des pays les plus respectueux des animaux de rente. Donc je sais pas pourquoi c'est là. D'accord, ça permet d'être respectueux, donc au final, oui, effectivement, on torturera moins les bêtes si jamais on fait en sorte de moins faire porter les cloches, mais par rapport aux animaux de rente, j'ai pas bien pigé le principe, voilà.
Absolument, et je crois que l'absurde était le maître mot des sujets qu'on a abordés dans cette émission, qui est malheureusement terminée. Hein.
Oui, donc, vous pouvez nous retrouver en téléchargeant mes podcasts sur radiokawa.com, réagir dans les commentaires, et aussi vous abonner au compte Twitter @RadioKawa, suivre Radio Kawa sur Facebook, c'est facebook.com/RadioKawa.com. Et voilà,
ça fait du sens.
Oui, ça fait du sens, c'est logique, au final. On va vous laisser en musique. Merci d'avoir écouté cette émission. À bientôt, Émilie.
À bientôt, Yann.
On se retrouve dans 2 à 3 semaines.
Absolument. Ciao. Bonne soirée.